France Inter.
France Inter. Le téléphone sonne. Élodie Forêt.
C'est un souvenir de vacances au goût de liberté. Nous étions enfants, nous étions au camping, en tente, caravane ou mobilhome, l'herbe fraîche et le soleil brûlant, l'apéro avec des voisins qu'hier encore on ne connaissait pas. Ce souvenir, on est nombreux à le partager tant le camping est depuis longtemps le mode d'hébergement préféré des vacances, environ 25 millions de Français chaque année. Mais le camping, à l'instar de la société, change, évolue. De moins en moins de tentes, de plus en plus de mobilhomes, moins de campings municipaux, plus de sociétés privées. Le camping, au fur et à mesure, est devenu plus cher, plus confortable aussi, luxueux parfois même. On parle alors de glamping, le camping glamour. Pour ça, il a bien souvent fallu bétonner, artificialiser, connecter. Alors, on se posera la question, peut-on allier confort et respect de l'environnement? Et puis on se demandera, avec toutes ces évolutions, que reste-t-il de l'esprit originel du camping? La proximité avec la nature, la simplicité, la rupture, peut-être aussi avec une certaine verticalité de la société. On verra avec nos invités qu'aujourd'hui certains essaient de préserver cet esprit camping. Il y a ceux également qui choisissent la van life du camping itinérant pour davantage de liberté. Alors dites-moi, c'est quoi pour vous le camping? Racontez-moi vos souvenirs d'enfance. Est-ce que vous aimez aujourd'hui? Si vous êtes un accro des vacances sous tente ou si vous préférez le confort d'un bungalow, appelez-nous, écrivez-nous depuis un camping ou ailleurs. 01 45 24 7000, on est ensemble jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer cette émission, un message d'Hubert laissé sur notre messagerie WhatsApp. Je n'ai rien contre les campings équipés de bungalows, mobilhomes avec piscine à toboggan, mais je ne pense pas qu'on puisse les appeler campings. Il faut réserver cette appellation aux établissements qui accueillent des tentes, des caravanes et surtout les randonneurs et les cyclistes itinérants. Voilà, pour en discuter avec nous ce soir en ligne, Olivier Siroste, bonsoir.
Bonsoir, merci de votre invitation.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sociologue, professeur des universités en sciences sociales appliquées au sport et aux loisirs à l'université de Rouen-Normandie. Vous êtes spécialiste des cultures du plein air et vous avez, entre autres, beaucoup travaillé sur la sociologie du camping. Avec nous aussi, Claire Bazin, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous. Et puis merci de votre invitation.
Merci d'être la présidente du GCU, le Groupement des Campeurs Universitaires de France, une association qui promeut une pratique du camping fondée sur l'autogestion, la solidarité et la laïcité et qui compte 50 000 adhérents et 90 terrains de camping. Et puis aussi avec nous Nicolas Daillot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air et vous êtes aussi gestionnaire de deux campings en Bretagne. Alors, on va évidemment répondre à Hubert, mais avant peut-être avec vous, Nicolas Daillot, une petite cartographie de ce qu'est le camping aujourd'hui. Ça représente combien de campeurs par an? C'est combien de campings en France?
Alors, il y a 7400 campings en France pour 850 000 emplacements à peu près. On réalise 141 millions de nuitées. On accueille un peu plus de 27 millions de personnes par an. Et on a beaucoup évolué puisqu'il y a une quinzaine d'années, on n'en accueillait que 19 millions, un peu plus de 19 millions. Et c'est vrai que, pour quand même répondre à votre auditeur, c'est vrai que le camping, d'après la définition du Code de l'urbanisme, c'est aussi bien des emplacements pour tentes, caravanes, camping-cars, mais également résidences mobiles de loisirs, les mobilhomes, les roulottes ou habitations légères de loisirs, ce sont des petits chalets démontables ou transportables. Tout ça, c'est le camping.
Il n'y a pas une réglementation aujourd'hui qui dit qu'il faut avoir un minimum de place pour les tentes ou pour les caravanes pour s'appeler camping, si je comprends bien.
Non, tout à fait. Et d'ailleurs, dans l'immense majorité des cas, les campings mixent les deux. Et d'ailleurs, on y reviendra sans doute, mais c'est le secret du succès de la profession, c'est d'avoir et des emplacements pour tentes et des emplacements équipés dans le même établissement pour faire effet boule de neige, pour ne pas mettre ses œufs dans le même panier, pour pouvoir s'adapter aux attentes et surtout pour conserver l'ambiance générale, sachant qu'il y a aussi des campings qui n'ont que des emplacements nus, notamment les campings municipaux, et il y a quelques campings, ils sont très minoritaires, qui n'ont que des hébergements équipés, sachant qu'il y a une forte segmentation. En complément de l'introduction que vous avez faite, qui était très juste, il faut aussi rajouter sans doute les campings naturistes, puisque la France est leader mondial du naturisme et que c'est une vraie culture nationale. On a des établissements d'ailleurs de très grande taille, les plus grands campings de France sont naturistes.
Claire Bazin, peut-être déjà pour commencer, présenter les campings GCU, parce qu'on ne les connaît peut-être pas tous. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, vos campings ?
Ben, c'est simple. C'est, vous l'avez dit en introduction, on est sur du camping participatif et on est sur le camping, je dirais, encore authentique. Olivier nous avait décrit à une époque, et je pense qu'on est toujours sous cette image-là, d'être les dinosaures du camping, puisque notre association a été fondée en 1937 et qu'elle fonctionne toujours sur le même principe. Et donc, effectivement, on a 87 campings aujourd'hui répartis sur toute la France. Et dans certains, on a en tout 350 locatifs pour à peu près 8000 emplacements nus, quoi. Donc, on est vraiment encore sur le camping classique, traditionnel, sous tente, caravane, camping-car. Voilà, il y a vraiment de tout. Et je dirais qu'aujourd'hui, on est vraiment orienté sur le camping nature, comme toujours. D'ailleurs, c'est une tendance qui revient, puisque le écotourisme nature revient à la mode, et on sait que à peu près 50% des Français considèrent que le contexte écologique influence leur choix de destination. Donc l'importance du camping encore nature. Je dirais pas dans son jus, parce qu'on évolue quand même. Aujourd'hui, il y a de l'électricité pour chaque campeur. Mais moi, j'ai connu le camping à une époque où on faisait la douche et on se lavait dans les auges à vaches. J'ai connu ça. Voilà. Mais on n'en est plus là quand même.
On n'est plus là. Voilà. Qu'est-ce que vous répondez peut-être juste à Hubert, qui dit qu'il faudrait peut-être différencier, on va beaucoup peut-être en parler ce soir, mais appeler camping des endroits où en fait on peut poser sa tente, alors qu'aujourd'hui il y a des endroits, des campings où on ne peut plus.
Oui, alors moi je suis totalement d'accord avec Hubert. Je pense qu'effectivement il faudrait bien distinguer, pour moi ce sont des villages vacances, ceux où il n'y a que du locatif, mais comme l'a dit Nicolas, c'est quelque chose quand même qui est quand même encore marginal, hein, où il n'y a que du locatif. Mais pour moi, effectivement, ces types de logements avec que du locatif, ça n'est pas du camping.
Olivier Sirost, avec vous, on va faire un peu d'histoire, si vous le permettez. On entendait Claire Bazin qui disait que son association avait vu le jour en 1937. Le boom du camping, c'est ça, c'est les congés payés ?
Alors, pas du tout. Alors, évidemment, il y a une histoire du camping qui est assez longue déjà, hein, qui remonte au dernier tiers du 19e siècle, inspirée par les explorateurs, où finalement, on joint aux grandes lignes commerciales, aux comptoirs qui se sont ouverts peu à peu le plaisir de l'hébergement, déjà avec des formes de cabanons, de tentes, de roulottes qui sont utilisées, et puis qui vont être ramenées de ces différents pays d'exploration pour en faire un hébergement conçu pour les vacances dans un projet éducatif des classes populaires au départ. Les premières associations de camping en France se fondent dans les mouvements protestants qui sont proches de l'essor du scoutisme. D'ailleurs, on retrouve les mêmes protagonistes qui lancent ces deux mouvements et qui sont fondées dès 1903 sur les premiers témoignages avec une première association protestante qui deviendra plus tard le Camping Club de France. en 1923. Et puis, on a une montée, effectivement, comme le disait Claire Bazin, d'associations qui vont avoir une importance cruciale dans ce mode de vacances et dans cette conception très, très partagée du lien social, très participative, avec les campeurs du Touring Club, par exemple, dans les années déjà 1912 pour le premier comité, puis plutôt 1930 pour le développement du mouvement, les alpinistes également, hein, via le Club Alpin Français, et puis les randonneurs qui vont se lancer dans le camping. Tout ça va monter en puissance. Une première fédération, qui est l'Union Nationale des Associations de Campeurs, verra le jour justement un peu avant le Front Populaire. Et le Front Populaire va se servir de ce mouvement de retour à la nature, d'éducation par le plein air, d'utopie partagée, d'une vision de société, comme vous le disiez justement dans le lancement de l'émission, où on fait provision de joie, de gaieté, de bonne humeur, qui sont des manières d'exprimer finalement une sensation qui est la liberté, et que le camping va essayer d'illustrer, d'incarner à travers ces différentes métamorphoses. Voilà. Le grand boom du camping, en fait, il aura lieu fin des années 60, début des années 70, où là on passe de 800 000 à 3,5 millions de campeurs en France, hein, d'après les données de l'époque, et où un campeur sur deux est ouvrier à cette période. Dans les années 80, on a une distribution sociale qui est à peu près identique à celle des catégories socio-professionnelles en France. Et puis, aujourd'hui, on a une offre qui n'est pas simplement le fait du camping, hein, qui est le fait des vacances et puis de l'évolution économique de la société, qui s'est davantage gentrifiée au niveau de sa distribution. Allez, voilà pour ce rappel.
Merci beaucoup. On est en ligne avec Frédéric. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Alors, vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle d'un petit village de Haute-Garonne, Puy de Touge, voilà, 50 km au sud de Toulouse.
Est-ce que vous faites du camping, du coup ?
Ah oui, nous, on fait beaucoup de camping. Donc, moi, j'ai 52 ans, mon mari, on a 57. Nous, on fait du camping depuis qu'on est enfant. Et on a toujours continué à l'âge adulte. On y a emmené notre fils, qui fait lui aussi du camping maintenant qu'il est adulte. Donc, on adore ça. Et nous, on fait du camping, on fait de la toile de tente. Donc, toile de tente, glacière électrique, petite table, fauteuil, voilà. Et on adore ça, et parce que c'est un truc qui nous fait déconnecter. Enfin, on a moins de... Enfin, voilà, on a deux casseroles, enfin, deux chaises, quelques couverts. On se balade, les activités... Enfin, bref.
C'est un retour à la nature aussi.
Le camping, ça a complètement... Ça a vraiment énormément changé. Mais partout, enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a très peu de campings municipaux, ils ont disparu au profit de grosses chaînes, que je ne vais pas citer, mais qui sont quelques-unes qu'on trouve partout en France. Donc maintenant, c'est devenu des campings avec des toilettes, des mobilhomes, des animations, des concerts, de la piscine, du toboggan aquatique. C'est devenu super cher.
Oui.
Même un emplacement nu, ben, il y en a de moins en moins. En effet, même il y a des campings dans lesquels on allait. J'ai regardé un camping en Bretagne qu'on adorait. Ben ça y est, c'est fini. Il n'y a que du mobilhome. Et donc, ben on a de moins en moins de place. On se retrouve, voilà. Enfin voilà. Et puis c'est devenu beaucoup plus cher. Là, ce week-end, on part quelques jours en Ariège, dans un petit village à Orlu, qui a encore un petit camping municipal.
Oui.
Donc super. Nous, ce qu'on attend du camping, c'est un endroit propre. Des sanitaires propres, calmes, qui est un pot de bienvenue, tout ça, pourquoi pas, mais voilà, qu'on nous laisse de la place et puis que ça redevienne à des tarifs abordables. Voilà,
donc, merci Frédéric. Donc si j'entends bien, si je résume, des difficultés à trouver des emplacements pour juste poser sa tente, et quand il y a des emplacements, ça coûte plus cher. Nicolas Daillot, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Ça devient de plus en plus difficile de trouver des endroits pour poser sa tente en France ?
Non, pas du tout. Il faut remettre les choses en perspective. En réalité, il faut partir de l'attente du client. Parce que finalement, les exploitants de camping, comme je suis moi-même, on suit évidemment ce que les clients nous disent. On fait évoluer notre offre en fonction de l'expérience qu'on peut tirer des saisons passées. Et en réalité, quand vous regardez les 15 dernières années, les chiffres de l'INSEE, puisque finalement, il faut partir des chiffres pour pouvoir faire le diagnostic, hein, on fait 60 millions de nuitées en emplacement temps de caravane aujourd'hui. Donc, c'était le cas de l'année dernière ou de l'année d'avant. C'était déjà le cas il y a 15 ans, alors qu'on a perdu 80 000 emplacements de camping pour temps de caravane entre-temps. Si on a perdu ces emplacements de camping, c'est surtout parce que 1 600 campings ont fermé en 25 ans. La moitié de ces emplacements, de ces campings confirmés, ce sont effectivement des campings municipaux, principalement parce qu'ils ne correspondaient plus aux attentes des clients. La réalité, elle est là. En 1990, il y avait 33% des campings étaient des campings municipaux. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 13% des campings français. Et les campings privés représentent 84% du total, alors qu'ils étaient 59% à l'époque. Tout simplement parce qu'il y a une demande, pas forcément de gentrification d'ailleurs, puisqu'on s'aperçoit qu'on a certes gagné de nouveaux clients qui ne seraient jamais venus en vacances dans un camping il y a 20 ou 30 ans, mais la clientèle, sociologiquement parlant, que nous accueillons aujourd'hui est la même qu'il y a 40 ou 50 ans, c'est-à-dire des classes populaires, des classes moyennes. Le premier critère de choix d'un camping, c'est le rapport qualité-prix. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que les clients de l'époque n'ont plus le même finalement comportement aujourd'hui. La durée moyenne des séjours est beaucoup plus basse que dans les années 60 ou 70. On part une semaine, parfois pas tous les ans pour les plus modestes des Français, mais on veut une semaine avec tous les équipements attendus par les enfants et la famille, les animations, la piscine, etc. Et c'est là qu'il faut bien revenir sur le modèle économique. Le succès du camping aujourd'hui et les attentes des clients, c'est justement d'avoir tous ces équipements. Et ces équipements sont financés surtout grâce à l'hébergement locatif. C'est parce qu'il y a des mobil-homes et des chalets dans un camping que le chiffre d'affaires a augmenté, que la saison s'est allongée, que le banquier a prêté de l'argent et que nous avons pu refaire les blocs sanitaires, beaucoup plus modernes qu'il y a 40 ans, qu'il y a des piscines, qu'il y a des animations, qu'il y a du personnel, qu'il y a des restaurants, et c'est l'attente des clients. Et c'est pour ça que le volume de campeurs aujourd'hui est le même qu'il y a 15 ans. Mais c'est vrai que le rendement à l'emplacement est beaucoup plus élevé qu'il y a 15 ans, parce qu'il y a 80 000 emplacements de moins. Juste une dernière chose. Aujourd'hui, les campings très peu étoilés, notamment les municipaux, ou les tout petits campings qui n'ont pas évolué, c'est un tiers des campings français et ils ne font que 14% de la fréquentation nationale des campings français.
Olivier Sirost, vous êtes d'accord avec ce constat sur l'explication de pourquoi il y a pas mal de campings municipaux qui ferment, qui ont fermé ?
Je pense qu'on peut rajouter quand même quelques éléments. Hein. C'est bien aussi de zoomer sur des exemples très précis, puis de dézoomer de façon plus large sur ce qui se passe et qui touche la société française des vacances. Voilà, pour contredire, mais ouvrir la discussion avec Nicolas Daillot, les chiffres qui sont donnés, par exemple, hein, en termes de nuitées, parce que après, la façon de présenter les chiffres du camping, tout dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de nombre de terrains, de nombre d'emplacements, de nombre de personnes qui peuvent être accueillies sur un emplacement ou dans un hébergement locatif? Est-ce qu'on parle en termes de nuitées? Vous voyez, et là, on peut présenter les choses de façon un peu différente. Alors, par exemple, hein, les derniers chiffres moi que j'ai pu consulter également au niveau de l'INSEE montrent qu'aujourd'hui, en nombre de nuitées, c'est-à-dire de nuits passées sur un terrain de camping, les terrains classés 5 étoiles, hein, qui représentent quand même une montée en gamme qui a été déterminante à partir de 2010, c'est quand même 21% des nuitées. Et c'est un chiffre qui est largement au-dessus du nombre de nuitées passées en camping, en cumulant les terrains non classés, les terrains classés 1 étoile et les terrains classés 2 étoiles, qui eux représentent à peu près 13,5% de nuitées à la même période. Donc voilà, je crois qu'il faut vraiment relativiser tout ça. La profondeur historique aussi pose problème, parce qu'on a une population qui change de plus en plus. L'utopie des vacances, qui a été la grande image du Front populaire, qui s'est servi du symbole de l'attente, de la randonnée, des jeunes ou des familles qui attendaient dans les gares ou qui partaient à vélo. Tout cela a été un énorme appel à peu à peu, finalement, un sentiment de liberté qui a été d'une part cadré par l'État, par les législations, et puis ensuite qui a été reprise à partir des années 60-70 sous forme d'une économie, véritablement. Et donc, à partir de là, sur la profondeur historique, comparer la situation, la situation des campeurs sur le plan social, socio-économique, à celle d'aujourd'hui, ça me semble être un peu difficile. On peut pas dire les mêmes choses. Hein, et voilà. Et le fait de dire que les gens vont plus au camping non plus, notamment sur les campings municipaux, en tente et autres, c'est peut-être aussi parce que on a une population française qui a changé. Hein, où il y a beaucoup plus de personnes âgées que de jeunes de moins de 18 ans, hein, si on fait une comparaison de tranches d'âge. Et puis, il y a également un phénomène de melting pot au niveau des populations. Et là où, au début du XXe siècle, Van Gennep, dans ses études sur le folklore français, disait il y a ce nouveau rituel de sortie dans la nature qu'est le camping. C'est sympathique, et d'autant plus sympathique que ça ne dure pas, c'est-à-dire cette situation de précarité dans la nature, en prise au vent, aux moustiques, aux intempéries, eh bien aujourd'hui, il y a vraisemblablement toute une partie de la population qui habite en France qui a connu cette situation dans des phénomènes migratoires et qui ne souhaite pas les revivre pendant ses vacances. Je pense que ça aussi, c'est un élément sur lequel on peut discuter et qui montre la difficulté peut-être à lire les changements que connaît le camping aujourd'hui.
Claire Bazin, on parlait pas mal d'étoiles et de comment sont classés les campings. Par exemple, vous, vos campings, est-ce qu'ils sont classés ?
Alors oui. Oui, pour des questions de récupération de TVA et pour des questions de coûts de TVA payés par les campeurs eux-mêmes lorsqu'ils payent leur séjour. Sinon, non. En fait, j'ai quasiment tous mes campings qui sont classés. Une étoile. Ça sert à rien au-dessus. J'essaye d'être à minima, car au-dessus de deux étoiles, la taxe de séjour est plus chère. Donc, non. Et comme nous, on est au GCU, je dirais, dans un camping où, justement, on essaye d'être dans des tarifs très compétitifs. Pour vous donner un ordre d'exemple, pour une famille avec deux enfants, tout compris, nous, un emplacement nu, ça oscille entre 24 euros et 35 euros par nuit, selon où vous allez et les destinations. Parce qu'évidemment, on a des destinations qui sont extrêmement prisées, donc voilà. Et puis en locatif, on oscille entre 52 euros et 114 euros la nuit, pour 6 personnes, tout compris, hein, vous avez tout, tout est compris dans les campings GCU. Donc si vous voulez, voilà, nous, les étoiles, d'ailleurs Nicolas le sait, elles nous agacent pas mal. Alors ça a un avantage, c'est que ça nous oblige quand même à faire attention à ce que nos campings soient beaux, soient accueillants, soient, voilà, ça c'est vrai, c'est le côté positif. Mais par contre, il y a certaines, dans la grille de classement, honnêtement, il y a des grosses aberrations, et c'est pas ce qu'attendent les campeurs qui cherchent à aller dans les campings type GCU, avec justement la dame là qui parlait qu'elle trouvait plus d'emplacement nu, qu'elle vient de chez nous, hein, parce qu'il y a de quoi faire.
Oui, parce
moi,
que...
l'année dernière, 600 000 nuitées quand même au GCU.
Hein. Ouais, parce que je rebondis un peu sur ce que disait Nicolas Daillot, il dit les goûts changent. En gros, si j'entends ce qu'il dit, c'est de dire bah, les gens demandent aussi en fait, cette évolution des campings et de plus en plus des conforts avec piscine, toboggan et compagnie. Vous dites que ce n'est pas le cas pour tout le monde.
Mais non, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et Nicolas le sait d'ailleurs. C'est-à-dire pour ça que d'ailleurs le GCU est adhérent à la FNHPA. parce que Nicolas représente tous les types de campings. Et je l'en remercie d'ailleurs parce qu'il sait qu'il y a vraiment un panel d'attente qui est complètement différent. On a des campings, nous GCU, qui sont situés juste à côté de 5 étoiles. Et on est très amis avec nos voisins parce qu'on n'a pas du tout le même type de clientèle, si je puis me permettre. Parce que nous, on parle d'adhérents, mais pour être plus clair pour tout le monde, on n'a pas le même type de clientèle. Les gens qui viennent chez nous, ils viennent vraiment chercher la simplicité. Et vous savez que là, je suis en vacances, hein, je suis au camping. Donc, pour vous dire, la semaine dernière, j'étais à Châtillon-en-Diois, il y avait je ne sais combien de tentes qui reviennent. C'est assez phénoménal. Les tentes gonflables, ça redevient, c'est hyper tendance. Et il y a des familles qui viennent parce que ça reste quand même un accueil très familial. Les gens viennent se reposer et profiter du soleil en famille, et c'est ça qui est important.
Et c'est peut-être une solution effectivement pour des gens. Je lis le témoignage d'Ève sur WhatsApp cet été. On fait un road trip en vélo, frères et enfants, mais on a été très mal accueillis dans un camping 4-5 étoiles. Force est de constater qu'on ne correspond plus au public attendu dans ce genre de camping. Allez, pour continuer la discussion, nous sommes en ligne avec Sylvain et Mélanie, propriétaires d'un éco-camping rural. Bonsoir.
Bonsoir France Inter, bonsoir Monsieur Daillot, bonsoir tous les auditeurs et auditrices.
Alors racontez-nous, à quoi ça ressemble votre camping à vous ?
Et c'est un petit camping rural dans un petit coin, c'est une petite perle dans la Durance, donc dans la Provence très chaude, entre Luberon et Verdon. Il s'appelle le Little Carpe Diem et son nom implique bien que le Little Carpe Diem, c'est penser à profiter du jour présent, mais Little, c'est en pensant qu'il y aura des suivants demain, ici au même endroit ou ailleurs sur cette planète. Donc avoir une offre qui correspond à un moindre impact sur l'environnement pour nous et l'association dont on fait partie qui s'appelle La Via Natura. C'est penser au lendemain tout en garantissant un confort pour nos clients. Je ne souhaiterais pas tomber dans la dichotomie. Nous avons aussi été, avant d'être gérant de camping et accueillir nos clients, membres du GCU et ça me fait sourire. Pas cette dichotomie-là, on parle vraiment d'offres différentes. Par contre, nous sommes un camping 3 étoiles de 35 emplacements. Avec toujours moins de 50% de locatifs, c'est-à-dire des bungalows, des mobilhomes, ce qu'on dit dans le monde du camping. Et ça fait toute la différence. Nicolas pourra le confirmer, des campings de moins de 70 emplacements, personne ne peut en vivre. Et en fait, on peut, nous, ici, avec une famille de 5, vivre de notre établissement rural avec une offre très spécifique, en étant sur place et en accueillant une clientèle souvent étrangère qui ne s'est pas laissée attendrir par l'offre productiviste des campings ces 40 dernières années, et quitte à faire tiquer un peu, tout en étant adhérent de la FNHPA, et on fait tous le même métier, mais on ne le fait tous pas tous de la même manière, on a évolué vers un camping 3 étoiles, voilà, toujours du confort, mais dans un rapport qualité-prix, et surtout un moindre impact sur la nature, sans emplacement pour la Via Natura, moins de 50% de location. Ça fait toute la différence dans le monde du camping. On est très nombreux. Je ne parle pas des campings municipaux qui sont à vocation différente. Pour moi, ils tournent sur des budgets municipaux. Hein. On est bien placé pour le savoir. On en a quelques-uns autour et on parle avec les maires. Et voilà. Donc c'est le rapport qualité-prix d'un camping municipal ne peut pas être comparé évidemment aux offres, qu'elles soient gigantesques de nos collègues et amis ou nos petits campings souvent ruraux. Nous, on met l'accent sur la nature, l'humain, et on pense qu'un oiseau vole parce qu'il ne fait pas 500 kilos. Un oiseau vole parce qu'il est léger. Et on a un moindre impact sur l'environnement quand le banquier n'a pas forcément prêté, Nicolas.
Olivier Sirost, merci beaucoup pour ce témoignage, Sylvain. On entend dans ce que dit Sylvain qu'il y a des campings aujourd'hui qui vont mettre l'accent sur aussi la nature, la défense de la nature, la protection de la nature. Est-ce que c'est quelque chose qui marche bien et qui en tout cas séduit les Français aujourd'hui ?
Oui, c'est quand même un des principaux arguments. Hein. Qui est à la base hein, même du camping dans son invention au départ. Hein. On distinguait déjà à l'époque les papiers gras, c'est-à-dire la massification du camping dès les années 50 de la classe ouvrière, avec les pionniers du camping hein, qui eux étaient des purs et qui, en enlevant leur tente, remettaient l'herbe du revers de la main en bonne place, en s'assurant qu'il n'y ait aucun détritus qui soit resté après leur passage. Mmh. Aujourd'hui, effectivement, c'est devenu alors à la fois une anxiété hein, sociale, on parle beaucoup d'éco-anxiété d'ailleurs par rapport au changement climatique, c'est devenu, je le sais, mes deux comparses pourront en parler de manière beaucoup plus précise que moi, mais c'est devenu quand même un objet de travail et de réflexion sur l'avenir du camping, hein, les risques incendies, de montée des eaux, d'implantation de végétation, par exemple, qui serait retardatrice de feu, ou de plateformes qui s'élèveraient si jamais il y a des risques de submersion au niveau des eaux. Donc c'est à la fois Vous voyez une réflexion technique qui n'a jamais quitté le camping depuis ses origines, qui s'est accentuée ces dernières années. Et puis en même temps, il me semble que effectivement, l'avenir à la fois de la planète, la réflexion par rapport aux changements globaux, est un argument de plus en plus avancé au niveau des campeurs. Et il y a un phénomène qu'on n'a pas évoqué, mais par exemple, qui est comment est-ce qu'on se transmet de génération en génération un emplacement ou du matériel, vous voyez, qui fait partie quand même de ces réflexes, où là, il y a aussi une culture vintage de l'objet technique ou du lieu où on va camper entre différents membres de la famille.
Nicolas Daillot, on a parlé de ces grands groupes qui tiennent de nombreux campings aujourd'hui en France. Il a fallu, bien sûr, pour les construire, avoir davantage d'artificialisation des sols qu'un camping plus modeste. Est-ce qu'ils font attention, malgré tout, aux questions environnementales, selon vous ?
Ah, bien sûr, en réalité, les groupes intégrés se comportent comme les campings indépendants. D'ailleurs, ils n'ont pas construit, puisque aujourd'hui, de fait, on ne peut pas créer de nouveaux campings. C'est très rare qu'un nouveau camping naisse, parce que pour des questions environnementales, urbanistiques, patrimoniales, tout à fait légitimes et qu'on ne conteste pas, il est impossible d'obtenir de nouvelles autorisations pour faire naître un établissement nouveau, ex nihilo. Donc, ce ne sont que des reprises d'établissements existants. Il faut savoir qu'un camping,
mais avec des infrastructures différentes, je veux dire, quand on construit des grandes piscines, etc., ça demande quand même c'est plus de bétonisation.
Alors, certes, mais aujourd'hui, un camping, c'est 22 000 m² en moyenne, 2 hectares 2. Seuls 5% de la surface est bâtie, en général. Donc, ça veut dire que l'immense majorité est encore en herbe, avec simplement des routes, parfois pas goudronnées, d'ailleurs, et des emplacements qui peuvent accueillir des hébergements légers qu'on peut enlever facilement ou démonter facilement, puisque c'est la condition, évidemment, urbanistique. C'est vrai qu'on rajoute des équipements, mais ce n'est pas propre au groupe, puisque les indépendants, finalement, suivent la même trajectoire. Encore une fois, on suit les attentes des clients, et la profession est extrêmement engagée pour pouvoir réduire son empreinte sur l'environnement. On vient d'ailleurs de signer un plan de sobriété hydrique avec la ministre du Tourisme, mais également on a des projets avec l'Office français de la biodiversité, avec les économies d'énergie, etc. Évidemment, l'installation de bornes électriques pour préparer la transformation du parc automobile français, puisque quand on accueille des millions de Français chaque année dans nos établissements, il faut se préparer au fait qu'ils viennent dans les années qui viennent avec des voitures électriques, et surtout quand on est à la campagne, où il va falloir renforcer les réseaux électriques, etc. Donc on est parfait impliqué. Il y a tout le volet qui a été évoqué aussi tout à l'heure par Olivier de l'adaptation au changement climatique. Alors c'est à la fois permettre de préserver l'expérience client pour qu'elle soit tout aussi agréable avec la montée des températures, donc créer de l'ombrage, changer la végétation, etc. Mais c'est aussi, bien sûr, ça c'est un... D'ailleurs, on va présenter notre plan national dans quelques semaines, c'est l'adaptation au changement climatique, comment on réaménage les campings à l'intérieur, on reconstruit les bâtiments de manière évidemment plus résiliente en cas de montée des eaux, de risque incendie, etc. Mmh. Parfois, on va devoir déplacer les campings, donc la réglementation va devoir évoluer pour pouvoir permettre, en toute sobriété, de transformer l'établissement pour pouvoir préserver les lits touristiques, de façon à ce que dans les décennies qui viennent, la France ait autant de campings qu'aujourd'hui, puisque si on ne fait rien, on va perdre des centaines de campings dans les décennies qui viennent.
Qui sont près du littoral. Catherine, à Montpellier, bonsoir, vous êtes avec nous.
Oui, bonsoir. J'ai été agréablement surprise d'entendre qu'il y avait sur le plateau une représentante des campings GCU, parce que oui, les campings GCU sont ma Madeleine de Proust. C'est-à-dire que dans mon enfance, j'ai beaucoup, et pré-ado, j'ai été dans beaucoup de campings GCU et j'en garde un souvenir vraiment merveilleux par rapport aux valeurs qui sont mises en avant dans ces campings. Comme il était dit tout à l'heure, là, par rapport déjà au fait que ce soit abordable pour le plus grand nombre et par rapport aux valeurs d'entraide, de solidarité, partage qui sont mises en avant par les assemblées de campeurs, par les élections entre campeurs, des responsables, des jeunes, pour faire des animations pour les enfants. Enfin, ouais, je trouve qu'aujourd'hui, toutes ces valeurs se perdent dans ce qu'on appelle camping aujourd'hui, et c'est triste.
Merci beaucoup Catherine. Claire Bazin, je vous fais réagir. Catherine qui garde vraiment un très bon souvenir des campings GCU. Elle parle de ces assemblées de campeurs. C'est peut-être une notion importante ça dans vos campings, c'est la participation active aux vacances.
Tout à fait. C'est, je dirais que l'importance vraiment de ces vacances au GCU, c'est vrai que c'est participatif. Tout le monde donne un coup de main. Là, je vous parle, je suis la présidente du GCU, mais je suis bénévole et j'y travaille toute l'année et je tiens à rester bénévole. On est beaucoup de bénévoles hein, qui font vivre l'association, tant au niveau des campings, par les délégués de terrain, que par les correspondants territoriaux qui font de la promotion et qui essayent de fédérer les adhérents sur le territoire, et que les campeurs eux-mêmes, quand ils viennent camper dans les campings GCU, ben évidemment, ils doivent donner de leur temps pour nettoyer les bâtiments sanitaires, pour faire l'accueil, pour faire le paiement des séjours avec les trésoreries, etc. Il y a toute une organisation qui existe et qui fait que nos tarifs notamment, c'est pas la seule raison, mais c'en est une qui fait qu'on a des tarifs effectivement pas chers. Je voulais revenir sur l'écomobilité parce que j'ai trouvé ça intéressant. On est en train nous aussi de développer cette partie-là parce que comme on est très nature, vous l'aviez compris, on est en train de mettre en place des mini locatifs qui reçoivent des vélos, des cyclistes qui font des randos avec différents parcours, avec différentes étapes. De camping GCU en camping GCU, on peut le faire. Mmh. Et aujourd'hui, Nicolas Daillot parlait effectivement du problème de véhicules électriques de plus en plus. On est en train de nous développer effectivement la possibilité de recharger son véhicule électrique. Sachez que les fabricants de caravanes sont aussi en train de travailler sur aussi une assistance électrique pour tracter les caravanes, parce que tout ça va poser aussi des problèmes dans pas longtemps. Donc tout ça fait partie aussi des choses importantes pour nous au GCU, parce que demain on accueille déjà aujourd'hui d'ailleurs des gens qui ont des caravanes, des voitures électriques qu'il faut évidemment pouvoir
s'adapter.
Évidemment.
Beaucoup de questions aussi sur notre messagerie WhatsApp sur le camping sauvage. Philippe, par exemple, nous demande ce qu'il en est de la réglementation en ce qui concerne ce bivouac ou ce camping sauvage qui est autorisé ou non en la matière. Nicolas Daillot, est-ce que vous avez des choses pour lui répondre ?
Oui, bien sûr, le camping dit sauvage, c'est-à-dire camping déclaré, il doit être déclaré en mairie, est tout à fait autorisé, à condition de ne pas dépasser 6 équipements et 20 campeurs, et sauf lorsqu'il est interdit dans certains espaces, sur les rivages de la mer, dans les périmètres de puisage d'eau potable, dans les sites protégés, etc. Donc c'est autorisé, mais il y a plein d'exceptions qui l'interdisent, mais aujourd'hui ça se pratique encore, bien entendu, ça se pratique moins qu'autrefois. D'ailleurs, il y a une autre forme de camping très simple qui malheureusement disparaît, ce sont les aires naturelles de camping et les campings à la ferme. La moitié des campings à la ferme et des aires naturelles ont disparu en 10 ans, ce qui prouve bien qu'il y a une évolution des attentes des clients.
On a l'impression parfois qu'il est plus facile dans d'autres pays, plus qu'en France, de faire du camping sauvage.
Alors, oui et non. C'est vrai que dans certains pays, c'est sanctionné plus durement qu'en France. Il y a aussi la problématique du stationnement des camping-cars ou des vannes hors des campings. D'ailleurs, la plupart des camping-cars font à la fois en camping, mais aussi hors camping. Certains n'y vont jamais, d'autres y vont énormément. C'est vrai qu'il y a une certaine souplesse en France, mais c'est aussi toute l'histoire du camping. Enfin, Olivier en parlerait mieux que moi. Si le camping aménagé que je représente a été créé, c'est parce qu'il fallait protéger l'environnement. Déjà à l'époque, on était à la fin des années 50, le gouvernement de l'époque a créé l'objet camping aménagé avec évidemment autorisation d'urbanisme, contrôle par le préfet pour que les campeurs aillent dans un endroit bien encadré de façon à préserver et la sécurité publique et la salubrité publique.
Alors il y a Bruno par WhatsApp toujours qui nous demande, peut-on réellement considérer la van life dont je parlais en introduction comme du camping, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup notamment sur les réseaux sociaux des influenceurs on va dire montrer un peu leurs vacances en van, peut-être un peu moins en camping-car, mais est-ce que vous diriez, vous, Olivier Sirost, que la van life, c'est du camping ?
Oui, ça l'a été très tôt, en fait. Cette idée de bricoler, d'aménager un véhicule ou une roulotte qui se déplace, on le retrouve déjà dans les archives dès le début du XXe siècle. Moi, j'ai retrouvé des archives de ça dans les années 1905, où telle comtesse, telle aristocrate aller voir les gens du voyage pour examiner de près comment étaient faites les roulottes. Et puis ensuite, les aménager à leur guise avec salon et piano, de manière à recevoir les convives. Et c'était tellement énorme qu'on les appelait les paquebots de la route et qu'on devait faire appel à un tracteur pour pouvoir les déplacer. Donc le phénomène n'est pas nouveau, ça a été intégré très tôt. Et peut-être que je peux faire un petit rappel étymologique. Dans l'étymologie grecque, et puis également dans l'histoire des religions, notamment du christianisme, Il y a deux racines assez intéressantes qui renvoient en copine. D'un côté, il y a la skéné ou skénos, c'est-à-dire la tente noire des berbères, noire à cause de la couleur de peau des bêtes à partir desquelles on confectionnait les tentes, qui était en fait une sorte de théâtre où on rejouait les relations sociales sur un théâtre très horizontalisé entre les individus. Et puis, il y a une deuxième étymologie, c'est la sunodia. Sunodia, ça veut dire faire route avec, c'est la caravane. C'est l'étymologie du mot caravane. Et aujourd'hui, force est de constater que la Fédération française de camping et de caravaning, déjà ancienne, a changé un peu son fusil d'épaule, et plutôt que d'être sur une fédération qui gère les campings associatifs, elle s'est beaucoup tournée post-Covid sur la question du camping-car, de la van life, comme l'ont fait il y a déjà très très longtemps les campeurs d'Amérique du Nord. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est pleinement intégré, et peut-être que une des voies, en tout cas fortement observables aujourd'hui, du camping, c'est ce retour à la mobilité. Nicolas le disait, des séjours beaucoup plus courts qu'il y a 30 ou 40 ans. Claire le disait également, un souci de recevoir ces nouvelles demandes de vélos, rando ou véhicules électriques, et sans doute que une partie du camping de demain se situe là.
Alors justement, pour finir, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je voudrais quand même vous donner la parole, Karine, bonsoir.
Bonsoir.
Fan de van life donc, vous?
Exactement, nous on est partant dès qu'on peut. On habite dans le sud-ouest de la France, donc on est proche des Pyrénées. Si on peut partir deux jours, trois jours, on part sur le week-end. On aime la liberté, l'autonomie. Et puis là, on est parti dix jours et on aura fait pas loin de 2800 km à peu près jusqu'en Belgique, avec des haltes. Voilà, on visite peu comme on le sent, on s'arrête où on a envie. On randonne beaucoup, donc voilà, nous, ça nous va. La liberté, l'autonomie, avec un petit camion aménagé par nos soins. Et voilà. Ça fait bien.
Bah écoutez, merci. Merci beaucoup. Vous arrêtez en camping, vous, ou bivouac non, sauvage?
Rarement. De temps en temps, mais plus à l'étranger, sinon c'est bivouac sauvage, oui.
Ouais. Et bah écoutez, merci beaucoup, Karine, pour votre témoignage, et à tous. On le sent vraiment qu'avec un développement de la van life, le camping qui évolue. Merci beaucoup à nos invités d'avoir partagé avec nous. Claire Bazin, présidente du GCU, le groupement des campeurs universitaires de France. Olivier Sirost, sociologue. Et Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air. Et puis, merci à toute l'équipe du Téléphone Sonne cette semaine, au standard Louise et Noémie, à la technique Adèle Caglar, Florian Dorimini, Sofiane Actib, et à la préparation du Téléphone Sonne, Nathalie Poitvin, Laura Dumès, Simon Bardi et Elio Lamour. Je vous souhaite à tous un bon week-end en camping ou ailleurs. Moi, je vous retrouve lundi pour un nouveau Téléphone Sonne.